Je vais vous inviter à vous tourner dans la parole à Luc 18. Je remercie James qui a déjà commencé ce passage la semaine dernière et qui donc nous a permis de voir une première parabole sur la prière. Les paraboles, c'est un moyen puissant d'enseigner parce que ça part du connu pour ce qui est moins connu. Et ça permet de comprendre des choses spirituelles à partir d'exemples terrestres. Le mot lui-même vient de para, à côté, contre, et bol, c'est comme le football, c'est une balle, c'est quelque chose qu'on jette à côté, qu'on met à côté. Et donc on prend une histoire à côté d'une vérité spirituelle pour permettre de la comprendre. Et là, on a encore une parabole sur la prière. Je n'ai pas eu le temps encore d'écouter le message de James, mais je suis sûr qu'il a dit qu'il ne fallait pas pousser la comparaison trop loin et que certains pourraient dire que quand on prie, c'est comme si il faut importuner Dieu parce que il est comme un juge mauvais, comme un juge inique. Mais bien sûr, c'est un raisonnement du moins vers le plus. Ça veut dire que si cette veuve arrive à convaincre le juge de l'aider, à combien plus forte raison, nous qui avons un Dieu qui est comme un papa qui nous aime, si nous lui demandons des choses qui sont en accord avec sa volonté, combien nous pouvons être insistants et répéter ses prières. Et donc, nous allons lire ensemble versets 9 à 14. Donc, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre péager, ou collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous l'ai dit, celui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc un passage bien connu, un passage facile à illustrer ou à enseigner à l'école du dimanche. Et c'est une comparaison entre deux personnages. Donc il y a la personne du pharisien, on sait que c'était les chefs religieux de l'époque, et ils n'étaient pas nécessairement mauvais de par leur foi, au contraire, leur foi revenait à la loi, et ils avaient vu ce que ne pas obéir à la loi avait coûté au peuple d'Israël avec les exils, la destruction du temple. Et ils avaient à cœur de vraiment appliquer les commandements reçus par Moïse. Et ils étaient vraiment à cheval sur la loi. Et le danger, c'est qu'ils étaient tombés dans cela, c'est qu'ils étaient devenus des légalistes. Ils étaient devenus des pinailleurs. Et je vous rappelle le contexte. Jésus monte à Jérusalem, il va aller vers sa mort, et il enseigne les foules, mais surtout les disciples et les chefs religieux qui le suivent pour essayer de le faire trébucher. Ils veulent le prendre en défaut de violation de la loi, de violation même de la loi romaine ou de la loi juive. Et Jésus n'a pas de sympathie pour ces hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils se tiennent entre le peuple et Dieu. Ils font souvent une barrière. Et vous vous souvenez, on avait vu que Jésus avait, parlant de ces hommes, il avait dit qu'il serait plus avantageux pour quelqu'un qui fasse trébucher un jeune, parlant de quelqu'un de jeune dans la foi, ou parlant par ailleurs d'un enfant, il vaudrait mieux qu'on mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance de la mer, afin qu'il ne, s'il était une occasion de chute, un scandale. C'était la petite barre, la petite baguette qui retenait un piège où on mettait un appât et l'animal, que ce soit un oiseau ou un petit rongeur, venait s'approcher, toucher la nourriture ou ce qui avait été mis pour l'appâter et faisait tomber, en faisant tomber le scandalon. Et c'est devenu l'expression qui nous dit un scandale, c'est quelque chose qui fait trébucher. Et ça peut faire trébucher dans un bon sens, comme Jésus est une pierre qui nous fait trébucher, c'est une pierre d'achoppement, on dit aussi. Et quand on tombe sur Jésus, en fait, on va tomber, on va comprendre l'Évangile, dans le sens où c'est utilisé dans plusieurs passages. Mais Jésus, donc, est toujours suivi par ces mêmes personnes. Et il est dit dans le premier verset que nous avons lu, verset 9, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc c'était eux-mêmes qui se considéraient bons devant Dieu, sans péché, acceptés par Dieu, qui trouvaient qu'ils avaient un grand privilège, ce qui est vrai, de connaître Dieu, de connaître sa loi. Et ils avaient tendance à mépriser les autres. Autrement dit, ils utilisaient la religion pour s'élever eux-mêmes. C'est souvent ce qu'on appelle la propre justice, les propres justes. C'est ceux qui pensent qu'ils sont justes. Et en fait, c'est eux-mêmes qui se déclarent justes, au lieu d'être déclaré juste par Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui peut tous nous menacer. On peut tous penser qu'on sait mieux que les autres, qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le péché. On peut avoir un sentiment de supériorité. C'est grave parce qu'en fait, l'humilité, c'est pas faire semblant de dire « Oh, je ne vaux rien », c'est être, je le dis souvent, c'est être réaliste. C'est réaliser que sans Dieu, nous ne valons rien, nous sommes des pécheurs, nous avons hérité de nos ancêtres depuis Adam et Ève, cette nature de péché, cette nature de pécheur qui fait qu'on pense d'abord à soi. Et ce pharisien, il pense d'abord à lui. Et s'il pense aux autres, c'est pour se mettre en valeur lui-même. Et on est tous d'accord pour dire que on aime bien être autour de gens humbles, mais quelqu'un qui est puant d'orgueil, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, ça, c'est pas agréable. On n'a pas de joie à être avec quelqu'un qui veut toujours vous rabaisser, quelqu'un qui veut toujours s'élever. La Bible nous dit que c'est à Dieu de nous élever, que si nous nous abaissons, il nous élèvera. Alors il n'est pas question de faire semblant de s'abaisser pour qu'il nous élève, parce que ça veut dire qu'on veut vraiment être élevé, donc on ne tombe plus dans la catégorie, vous voyez, un peu, c'est un raisonnement circulaire comme ça. Mais cette personne, il fait le contraste entre cet homme religieux qui est un expert, qui a la connaissance biblique, il connaissait l'hébreu, peut-être pas le grec, mais il avait toute la connaissance, il lisait les écrits des rabbins, il discutait, il dissertait. Il connaissait la théologie. Et aujourd'hui, et au cours de l'histoire, on a des personnes qui, par intérêt pour Dieu, il peut y avoir un bon intérêt, commencent à étudier, et étudier au point d'oublier Jésus. Et la théologie peut des fois nous cacher Jésus. Ça ne veut pas dire que la théologie est une mauvaise chose, mais si elle prend trop de place dans notre approche de Dieu, si plutôt que de réaliser que Jésus m'aime et qu'il veut que je le dise aux autres, si ma curiosité intellectuelle fait que je me demande si, par exemple, Dieu peut-il faire un rocher aussi gros, aussi lourd, qu'il n'arrive plus à le lever? Puisque Dieu peut tout faire, il peut faire peut-être un rocher qu'il n'arrivait plus à soulever lui-même. Et on voit la stupidité de ces recherches, de ces questions, de ces fausses questions théologiques. Et donc il y a ce pharisien, et puis donc c'était, dans la société de l'époque, c'était ceux qui avaient pignon sur rue. C'était ceux qui étaient admirés, ceux qui étaient respectés. On a vu qu'ils aimaient avoir la première place. S'il y avait une manifestation et qu'ils étaient au deuxième rang, ils essayaient de passer au premier rang. Et de l'autre côté, il y avait le péager. Alors le péager, dans cette version, je ne sais pas ce que votre version utilise, c'est un joli terme, péager. Ça fait penser à, pour moi, ça m'a toujours fait penser à architecte, paysagiste. Mais non, péager, c'est quelqu'un qui recevait les péages. Aujourd'hui, on met les cartes de crédit ou on jette les pièces dans le truc. Mais avant, il y aurait eu un monsieur avec une petite table quand vous passiez avec votre chariot. Et vous auriez dit, voilà, c'est 50 sesterces. Même si en fait c'était seulement 10. C'était donc des gens qui collectaient des impôts, mais ils les collectaient pour l'envahisseur, pour l'occupant romain. Donc ils étaient haïs non seulement parce qu'ils collaboraient, mais en plus parce qu'ils profitaient de cette position pour s'enrichir personnellement. Et on le verra avec Zachée et d'autres. Matthieu lui-même était un ancien évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu était lui-même un collecteur d'impôts. Et dans la société de l'époque, il y avait au sommet, il y avait les pharisiens, et puis de l'autre côté, il y avait tout en bas de l'échelle, il y avait ceux qui étaient haïs, ceux qui étaient méprisés, les péagers, ceux qui collectaient des impôts en trichant et en collaborant avec l'occupant romain. Intéressant, verset 11, le pharisien debout. Priait ainsi en lui-même. Sans doute, il avait la bonne position, il essayait d'être se redresser. Je dois me redresser, c'est bien. Et puis, il parlait très fort pour que tout le monde l'entende. Et on a des fois dans des églises l'impression que si on ne crie pas « Seigneur, oh Seigneur !» que nos paroles ne vont pas être entendues. Et qu'il y a tout un spectacle qui est donné. L'automne dernier, on a eu la visite à Nice d'un de ces charlatans, Benny Hinn, pour ne pas le nommer. Et c'est le genre de choses qu'ils font. Voilà, je suis envoyé de Dieu. Vous avez de la chance que je sois là. Vous avez remarqué qu'il est dit, il priait en lui-même. Autrement dit, ce n'était pas une prière qui atteignait Dieu et les cieux. Il priait pour se faire plaisir, pour se féliciter de ce qu'il était un homme merveilleux. Et c'est, sans doute, ce n'est pas l'humilité que Dieu apprécie. C'est quelque chose que Jésus va attaquer, repousser sans arrêt dans son ministère. C'est pour ça qu'il était détesté par ces hommes qui ont cherché à le piéger et finalement à le mettre à mort. Il remettait en cause leur statut, le statu quo et leur statut de grands chefs respectés. Et on a souvent, à l'école du dimanche, c'est facile de voir justement le pharisien dans son beau costume, majestueux, en train de lever juste les yeux juste dans le bon angle, les mains plutôt dans le bon angle, les yeux à moitié fermés pour avoir l'air spirituel, mais pour voir autour de lui ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Ô Dieu, je te rends grâce. Dieu, merci de m'avoir fait si beau, si bon. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des accapareurs, qui prennent les choses qui ne leur appartiennent pas, qui cherchent à avoir la plus grosse part du gâteau, on dirait aujourd'hui. Ceux qui sont injustes, ceux qui sont dans le péché sexuel, dans l'adultère. Et là, on sait qu'il a les yeux ouverts, c'est parce qu'à moitié fermés seulement, parce qu'il a remarqué ce collecteur d'impôts, ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Là aussi, il va se vanter de faire plus que ce qui est demandé. Comme si ça pouvait lui acquérir un mérite supplémentaire. On a vu dans le passage de Luc 17 que Jésus disait à ses serviteurs qu'ils ne devaient pas attendre que le maître leur serve un repas quand ils faisaient ce qu'ils avaient fait. Et on avait vu cette expression « nous sommes des serviteurs inutiles ». Et ce n'est pas inutile dans le sens qu'on ne sert à rien, mais c'est inutile dans le sens que c'est sans nécessité. Autrement dit, il n'y a pas de nécessité que ce soit moi qui suis utilisé comme serviteur. Autrement dit, tout ce que je fais, c'est ce qui m'est demandé. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans le service de Dieu. C'est souvent pas le cas parce que la nature humaine est telle que on cherche toujours un peu de gloire pour nous-mêmes. Et pendant la conférence, le matin, on avait une réunion de commencer par la prière et par un message. Et le dernier jour, il y a un pasteur allemand que j'aime bien, qui est un jeune pasteur allemand à Hambourg maintenant, Hanovre, pardon. Et il est venu, il a dit, il parlait aussi sur l'humilité, qu'il parlait du psaume 131, où le psalmiste déclare monter sur la montagne et qu'il est comme un enfant sevré, qu'il ne veut pas. Il ne veut pas avoir un... Si vous voulez, vous y tournez. Psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Et donc, il disait qu'en fait, c'était sur ce thème qu'il y avait cette nécessité de l'humilité réelle dans le service des autres. au nom de Dieu. Et que Élisée, je n'aime pas être là à vous enseigner la parole, mais le problème, c'est je n'aime pas, mais j'adore ça. Parce qu'il voyait qu'en fait, dans son cœur, il y avait cet aspect, je veux rester humble, mais en même temps, lorsque je suis là à vous enseigner, ma nature, mon orgueil peut être satisfait. Ou se dire, tiens, il y a tous ces gens, ces 120 pasteurs, ou dans mon cas, il y a vous qui m'écoutez attentivement, merci. Et je peux me dire, oh là là, quelle importance. Mais c'est bien de savoir que lorsque James ou Tonio enseigne, on me dit, quand est-ce qu'ils vont enseigner la prochaine fois? Pour dire qu'on on a bien apprécié le changement. Et c'est une bonne chose. Et il se comparait, cet homme se comparait aux autres. Il avait un cœur arrogant, pour parler du psaume 131, et des regards hautains. Il ne se prenait pas pour la moitié d'un imbécile, il pensait vraiment qu'il était quelqu'un de super spirituel. Mais en fait, on a dit qu'il priait en lui-même. Autrement dit, ce n'était pas quelque chose que Dieu entendait. Dieu ne voulait même pas entendre cela. Il pouvait parler tout ce qu'il voulait. Ça n'allait pas plus haut que le plafond, ça redescendait. Et il allait au-delà de ce qui était nécessaire. Il pensait pouvoir avoir des mérites. S'il faisait plus que ce qui était demandé. Donc la parole de Dieu de demander à ce qu'on jeûne seulement une fois par an officiellement, c'était pour une des fêtes des trois grandes fêtes du peuple juif que Dieu avait donné, et il n'y avait pas besoin de faire un jeûne aussi régulièrement qu'il le faisait. Il jeûnait deux fois par jour, par semaine, le lundi et le jeudi. Ça, c'était une pratique qui n'était pas requise, c'était pas quelque chose qu'on demandait, la loi demandait, mais c'était en souvenir de Moïse. On pensait qu'il était monté sur le mont Sinaï, le deuxième jour de la semaine, et qu'il en était redescendu le cinquième jour de la semaine. Donc une façon de commémorer ça, c'était de jeûner. Il est bon de savoir aussi que le deuxième jour de la semaine, je crois, c'était un jour de marché. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait. Donc ils montraient qu'ils avaient jeûné en se rasant pas, en laissant leurs cheveux en désordre, en ayant des vêtements et en montrant sur leur visage que qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que je suis fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est même pas quelque chose qui était demandé dans la parole, mais ils voulaient encore une fois impressionner les autres. Ils voulaient qu'on pense, oh, ce rabbin ou cet homme, ce pharisien, quel grand homme. Les pharisiens, ça voulait dire des gens séparés. Ils étaient séparés des païens, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ils s'isolaient complètement du monde. Et nous sommes appelés à être dans le monde, à ne pas être du monde, mais à être dans le monde. C'est-à-dire, on n'est nulle part appelé à s'isoler dans les monastères. Il y a des exemples de personnes dans la Bible qui prennent des temps de recueillement. Paul s'est retiré dans le désert et d'autres passages, d'autres personnages qui prennent des temps pour chercher le Seigneur. Mais cette idée qu'on doit s'isoler du monde parce que le monde est trop plein de pécheurs, c'est de l'orgueil. C'est ce qu'il voulait faire. Mais l'Évangile nous appelle à ne pas être du monde, c'est-à-dire à ne pas embrasser les valeurs qui sont courantes dans le monde non chrétien. Le monde, c'est une façon de parler du monde qui n'est pas racheté par Dieu. Donc c'est les valeurs de la société non croyante autour de nous. Ces valeurs sont fortes et ont tendance à venir s'infiltrer dans notre monde spirituel. Et il ne faut pas se laisser influencer par le monde, mais par contre nous sommes appelés à être des agents de transformation dans le monde. On est appelés à avoir des contacts avec des non-chrétiens, à parler de Dieu avec des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est intéressant parce que si vous parlez de Dieu, vous faites des expériences intéressantes. Pour revenir à EasyJet, à l'aller, le vendredi soir, j'étais fatigué, j'avais essayé de tout mettre en ordre, préparer. Et vous connaissez ce sentiment lorsqu'enfin on peut s'asseoir dans l'avion, qu'on est passé par la sécurité, qu'on a vérifié que votre bagage allait bien pouvoir rentrer dans les compartiments de bagages. Et enfin on s'assoit, on peut souffler un peu, on est heureux, on dit « Ah !» Ah ! Alors c'est vrai, on regarde un peu les instructions, on les connaît, on regarde comment fermer et ouvrir une boucle de siège d'avion. Et au cas où vous auriez oublié, on vous rappelle comment ça marche. Et je crois qu'une fois, il faudrait que tout le monde dans l'avion dise « Waouh ! C'est comme ça que ça marche, une boucle de ceinture de sécurité ?» Mais peu importe, c'était bien long. Et juste au moment où je m'attendais à ce qu'on dise « on commence à bouger », l'annonce vient, on a un problème technique, on va désembarquer tout le monde. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir réparer l'appareil. On vous donnera des nouvelles ultérieurement. Mais en attendant, on vous donne une carte qui ne marche pas, mais qui vous permettrait d'avoir 4,50 € par tranche de 2 heures pour acheter un sandwich et une boisson. Mais une boisson, ça coûte déjà 2,50 € ou 3 €. Donc on dépense de l'argent. Et tout ça pour dire que c'était... Finalement, l'avion est arrivé à 5 heures plus tard. Ils ont fait venir un avion vide de Londres. Dieu merci, on a pu quand même partir. Et j'étais très intéressé parce que d'habitude, le voyage, ça met des heures pour arriver dans la zone de Venise où j'allais d'abord, comme ça prend 5-6 heures de route. Et là, j'étais content, j'ai dit, en 50 minutes, je vais faire ce qui me prend d'habitude, 5 heures de route. En fait, si j'étais parti en voiture, je serais arrivé au même moment, pas plus tôt. Et là, Craig Quam de Montebelluna m'attendait, j'avais pu le prévenir, il était venu me chercher je suis arrivé à minuit et demi. Donc c'est bon, une fois ça passe, mais l'autre soir, avec Mitch, on s'est retrouvé à l'aéroport, on était dans... des voitures différentes qui nous ont ramenés d'Autriche à Venise. Et même chose, je vais au comptoir pour vérifier que tout était en ordre, et la personne me tend une carte de sandwich. J'ai dit, oh non, non, ne dis pas ça. Si l'avion va avoir du retard, probablement on partira avec 3 heures de retard. Et là, j'étais fatigué. Une semaine riche, mais très fatigante. J'ai failli fondre en larmes, piquer une crise. Et puis, je me suis dit, Seigneur, tu dois avoir une idée derrière la tête. C'est pas possible que ça serve à rien, ces événements, ces retards à répétition. Et donc j'étais dans cette attitude et il y a une personne qui essayait d'avoir un sandwich et qui me disait « Mais oui, ces cartes ne marchent pas, je crois qu'EasyJet va envoyer quelqu'un. » Alors j'ai dit « J'ai l'habitude, vendredi dernier j'ai déjà attendu 5 heures et les cartes de crédit pour les sandwichs ne marchaient pas. » Ah, il me dit « Vous aussi vous étiez là ?» J'ai dit « Oui, ah !» Il dit « Oui, c'est terrible ». Et on a commencé à parler et on a parlé d'une employée chez Paul à l'aéroport à Nice. Elle était d'origine marocaine, mais elle était formidable. Elle se décarcassait pour les gens. Les gens, dans ces moments, sont très tendus, pas aimables, etc. Elle servait tout le monde. Elle allait voir EasyJet. Elle réglait tous les problèmes. Et juste avant de monter, je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose, je vais vous remercier, vous féliciter de la façon dont vous faites les choses. Et le gars me dit, ah oui, vous aussi vous avez remarqué, moi je lui ai donné un pourboire de 20 euros. J'ai dit, non, c'est admirable, et j'ai dit, oui, j'ai loué le Seigneur de l'avoir servi ainsi. Et j'ai parlé de Dieu. Pas une remarque, sans chercher, mais j'étais dans le monde, mais en même temps, je parlais de Dieu. Et là, on a découvert qu'en fait, il a un arrière-plan chrétien, qui c'est un catholique né de nouveau, qu'il a à cœur les droits de l'homme. Il est un ancien, ou je crois qu'il est toujours consul honoraire du Canada à Monaco. Et il organise on a fait tout un tas de trucs. Il veut défendre l'éducation des enfants, la vie des enfants dans le ventre de leur maman. Il veut défendre la liberté de la foi. Ils ont un think tank, un groupe de réflexion à Monaco. Ils font une conférence au mois d'octobre. Je vous dis tout ça juste pour vous dire que si on ouvre la bouche un petit peu, on ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Mitch a rencontré la personne. Peut-être que ça ne donnera rien, mais au moins, ça m'a fait passer le temps de façon plus agréable. Et j'aimais bien ce que Dave Guzik nous disait, c'est que si un bateau n'est pas sur l'eau, ça n'est pas un bateau. Mais si le bateau est dans l'eau, il n'est plus un bateau. Autrement dit, si on est appelé à être dans le monde, on flotte dessus, mais on n'embrasse pas toutes les valeurs, et on ne doit pas se laisser influencer par le monde. Donc c'est l'histoire du bateau. Si le bateau il est sur l'eau, il est appelé à être dans l'eau, mais au-dessus. Mais si l'eau rentre dans le bateau n'est plus un bateau. Amen. Et donc, le PAG, lui, il était... il était à l'opposé. L'autre se comparait aux autres. Il rappelait qu'il jeûnait deux fois la semaine. Donc ça faisait plus de 104 fois, plus la fois où c'était demandé, 105 fois, alors qu'il faisait plus de 100% que de ce qui était demandé, 100 fois plus que ce qui était demandé, c'est plus que 100%, c'est 10 000% pour les mathématiciens. Il faisait plus que ce qui était requis, il faisait au-delà. Et puis il donnait la dîme de tous ses revenus. Là, il fallait donner un dixième de ses revenus pour le service à Dieu, pour le service du temple, pour signifier que tout ce qu'on recevait en fait appartenait à Dieu, mais c'était demandé sur les revenus financiers ou les revenus agricole, par exemple. Mais là, ils avaient tendance à peser même leurs épices. Ils avaient 10 grains de sel, ils mettaient 9 grains de sel d'un côté, ils en prenaient un qu'ils mettaient de l'autre. Ils pesaient ça, c'était des vrais pinailleurs. La religion avait complètement effacé Dieu et la relation que Dieu va avoir avec nous. Et encore une fois, la Bible, si on l'écoute en se moquant des pharisiens, elle ne nous a pas grand-chose. La Bible, elle veut nous dire, est-ce que toi aussi, tu peux te comparer aux pharisiens? Est-ce que toi aussi, il y a du paraître, du faire semblant? Est-ce que tu Tu te fais remarquer quand tu pries, alors peut-être pas en criant ou en levant les mains, ou quand tu donnes la dîme. Ou est-ce que tu fais ça discrètement pour Dieu, pour reconnaître qu'il te donne toutes choses et que c'est un bon retour des choses. Le péager, lui, au contraire, il se tenait à distance. Il était resté à l'écart, il était en arrière. Et lui n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il avait tellement honte de son péché qu'il se disait, Dieu, j'ai besoin de ta miséricorde, je suis un tel pécheur. Il se frappait la poitrine. C'était une façon de symboliser qu'il était puni. C'était comme les coups qu'on recevait comme punition. Il était conscient de son péché. Il était conscient qu'il était indigne de l'amour, du pardon de Dieu, mais il venait repentant. Il venait en demandant à Dieu d'être apaisé envers lui. Là, il est dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Mais le texte, en fait, veut dire, « Sois apaisé envers moi, on pourrait dire très bien, le pécheur. » Comme Paul qui disait être le plus terrible de tous les pécheurs, le plus mauvais des pécheurs, cet homme disait, je suis l'exemple même du pécheur. Est-ce que je viens à Dieu conscient de mon péché ? C'est là que la religion est dangereuse, c'est parce qu'elle donne un espèce de vernis. On peut penser que parce qu'on connaît, qu'on vient, on va à la messe ou on vient au culte une fois par semaine, ou même on peut aller deux fois par semaine à une réunion de prière, à une réunion d'un groupe de quartier, on peut croire qu'on a accumulé des bons points, mais on sait que les bons points ne suffisent pas. Il faut plus que des bons points. Il faut que ce soit Dieu qui nous pardonne. Et Dieu, pour nous pardonner, doit faire payer à quelqu'un le prix de nos péchés. Et c'est l'Évangile. Nos péchés méritent la mort. Et Dieu pourrait choisir de nous faire payer ainsi, nous tuer tous sans nous ressusciter. Mais là, il a trouvé le sacrifice parfait qui prend notre peine, notre punition, le sacrifice à notre place. Jésus, son propre Fils, pas quelqu'un de moindre importance dans la Trinité. Jésus, c'est Dieu lui-même, on le verra dans la parabole un peu plus loin du jeune homme riche. Il va aller dans sa maison justifié, nous dit le verset 14, plutôt que l'autre. Il était conscient de son péché, il n'osait même pas parler à Dieu. Il ne cherchait pas à se faire voir des autres, il avait honte de lui-même. Et encore une fois, le pharisien aurait dû avoir la même attitude. Surtout qu'en plus de tous les autres péchés qu'il commettait sans doute, il ajoutait celui de l'orgueil, du mépris. Il était complètement centré sur lui-même. Il n'y avait aucun amour pour les autres. Merci Seigneur de faire que je ne sois pas comme cet homme. Ça peut être une prière justifiée lorsque on remercie Dieu d'être dans un pays où pour l'instant il n'y a pas encore de massacre ou d'incendie d'église. On sait que ça pourrait venir très vite. Mais l'autre, c'était plus je te remercie parce que je sais que je suis supérieur aux autres. Et donc ce contraste très fort. Mais le résultat, c'est qu'il y en a un qui... C'est la première fois que dans l'Évangile, le mot « justifié », rendu juste par Dieu, aux yeux de Dieu, par Dieu lui-même, est employé. C'est Paul qui va être le grand explicateur de texte, celui qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la justification, le fait d'être déclaré juste, pas parce qu'on a accompli, mais parce que Dieu nous aime et veut nous pardonner, et qu'il prend à notre place notre péché, il devient péché à notre place, et il nous donne sa justice, sa parfaite attitude morale, son parfait comportement, ses intentions dans son cœur parfait. Il transfère ça, il met ça sur notre compte. Un peu comme si vous aviez une terrible amende et que vous ayez causé la catastrophe d'un avion en vous promenant en bicyclette sur la piste et que vous retrouviez avec des procès qu'on vous demande 100 millions d'euros de dédommagement pour les familles. Et sur votre compte, il y a 125 euros. C'est impossible. C'est impossible. Sauf si Bill Gates, quelqu'un qui aime bien la bicyclette, entend parler de votre situation et fait un virement sur votre compte. Toute proportion gardée, c'est un peu ça. On a une amende énorme, notre vie. Et notre vie ne suffit pas, il faut qu'on soit mort pour l'éternité pour payer cette amende de notre propre péché que nous avons hérité et que nous mettons en application. Cette nature, elle s'exprime et elle commet des péchés. Mais Jésus, lui, il a un compte encore mieux que Bill Gates. Il a la plénitude de justice, d'acceptation divine. Et il vient, par sa mort, il vous fait un chèque qui vous permet d'avoir l'amende payée. C'est lui qui a payé l'amende. C'est lui qui est mort à ma place. Et il nous dit, celui-là, il est déclaré juste par Dieu. Ce n'est pas lui qui a mérité d'être juste, mais parce qu'il s'est humilié, qu'il a fait confiance à Dieu, il venait au temple, il croyait en Dieu. Son salut, c'était dans la promesse faite à Abraham d'un Messie, même s'il n'avait pas bien conscience encore de Jésus. Encore une fois, c'est une parabole. Mais on peut penser que Jésus basait cette parabole sur ce qu'il voyait autour de lui entre les pharisiens orgueilleux et les collecteurs d'impôts qui étaient méprisés de tous, qui étaient des collabos indignes. Et puis il a cette phrase qu'on retrouve dans beaucoup de passages de la Bible, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et que celui qui s'abaisse sera élevé. » On l'a vu, on l'a revu, on le reverra. Mais ça, c'est un grand principe de la vie chrétienne. Celui qui reconnaît ses fautes et qui s'humilie, il est élevé. Et j'ai déjà partagé dans le passé cette histoire où il y avait... On était au Canada, à l'école biblique, et il y avait un administrateur, le responsable de l'administration du collège, qui était un homme assez orgueilleux, on pourrait dire. Oui, il était orgueilleux, il était sans doute plus éduqué que les missionnaires, certains qui avaient fait des séminaires, mais il avait une haute éducation, il avait sans doute un MBA, master en business, et on voyait la façon dont il se comportait, la façon dont il marchait, la façon dont il parlait aux gens, c'était un peu de façon je suis le directeur administratif, c'est moi qui gère cette maison. Il avait oublié que c'était une œuvre de Dieu. Et il avait fait un soir, il y avait un service le soir où les gens pouvaient partager, demander la prière ou partager des expériences, des réponses. Il était venu, il avait surpris tout le monde en disant « Je tiens à vous demander pardon pour la façon dont je me comporte. Le Seigneur m'a montré que j'agis avec orgueil, que je méprise les gens, que je traite mes collaborateurs avec impatience. » Et au fur et à mesure qu'il était en train de s'abaisser, il ne le faisait pas pour dire « Tiens, si je m'abaisse, je vais être élevé. » Mais il s'abaissait et dans mon cœur, dans mes yeux, je voyais cet homme qui était élevé. J'avais de plus en plus de respect pour sa capacité à dire « Je vaux rien et je vous demande pardon. » Ce principe était illustré devant mes yeux. Et on l'a tous vu. Lorsque quelqu'un s'humilie devant vous, la Bible, les proverbes disent qu'une réponse douce calme la fureur. Si quelqu'un vous bloque et que vous klaxonnez pendant un quart d'heure et que la personne dit « ferme-la », ça vous met encore plus en colère. Si la personne vous demande pardon, « Excusez-moi, j'avais une urgence, ma mère est malade, j'ai dû la descendre, je suis vraiment désolé, est-ce que je peux vous aider ?» Tout de suite, « Bon, mais ça va. » C'est un principe, c'est des vases communicants. Quand on s'abaisse, on est élevé, quand on s'élève, on va finir par être abaissé. Et Dieu y veille parce que c'est son principe. On va regarder les versets 15 à 17. « Des gens lui apportaient même les nouveau-nés pour qu'il les touche, mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Et Jésus les fit appeler et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Alors, c'est séparé dans un petit paragraphe dans ma Bible, mais en fait, c'est toujours l'idée de l'humilité qui est quelque chose que Dieu apprécie tant. Et donc, à l'époque, au bout d'un an, les nouveau-nés étaient amenés au rabbin qui, en rappelant le geste de Jacob bénissant ses enfants, mettait la main, ou de Joseph bénissant ses enfants et ses petits-enfants, mettait la main sur la tête comme pour transférer une bénédiction. Et donc, Jésus, c'était un rabbin, et des gens venaient lui apporter des nouveau-nés pour qu'il les touche. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Laissez-le, il est, vous voyez bien qu'il est fatigué, il est occupé. Et Jésus rectifie la situation, il les fait appeler. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne vous mettez pas en travers d'eux et moi. Ça nous rappelle le verset 17, si nous faisons chuter un enfant ou un jeune croyant, c'est une chose terrible que Dieu déteste complètement. Ne les empêchez pas de venir. Alors peut-être qu'il y en a qui disent, mais ici on nous dit qu'il faut que les enfants partent à l'école du dimanche. Je sais que certaines familles, des fois, aimeraient bien que leurs enfants restent avec eux. Ils nous ont accusés de ne pas laisser venir à Jésus les petits-enfants. Mais je crois que c'est plutôt mal fondé, puisqu'en fait, L'idée d'avoir une école du dimanche, c'est de permettre aux enfants de recevoir un enseignement approprié, à leur portée. Alors qu'ici, on les entend, les pauvres, quand ils entendent chanter, qu'ils ne comprennent pas les paroles ou que ça passe au-dessus d'eux, ils jouent entre eux. Et je sais que les parents sont tendus des fois, c'est pas grave. Laissez venir à Jésus les petits-enfants dans cette période, mais sachez qu'on a quelque chose de plus adapté, qui permet aussi d'avoir plus de calme ici, de pouvoir porter attention davantage attention à ce qui est partagé. Mais notre idée, c'est de les aider à venir à Jésus en ayant des activités, des textes, des demandes de prière qui soient à leur portée. Et vraiment, en tant que parents, vous devez prier avec vos enfants, ne soyez pas des obstacles en laissant l'Église être seule à leur apporter quelque chose de spirituel. Si c'est une fois par semaine, ça ne va pas suffire. Vous devez prier avec eux tous les jours. Vous devez parler de Dieu. Vous devez prendre les incidents, les événements de la vie quotidienne pour montrer que Dieu est là, montrer comment on peut faire confiance à Dieu, comment on peut prier, comment on peut attendre des réponses. Et Jésus a ces paroles, le royaume de Dieu est pour leur pareil. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dirait Matthieu, pour ne pas utiliser le mot Dieu, avec son auditoire juif qui aurait été offusqué, il dit le royaume de Dieu est fait pour les enfants, pour leur pareil. Alors la question c'est, quelles sont les qualités qui font que ces enfants sont faits pour le royaume de Dieu? Une des choses qu'on remarque dès qu'on a tenu un nouveau-né entre ses mains, c'est qu'un nouveau-né, un enfant, est totalement dépendant de ses parents. Il n'y a pas de place pour l'autonomie, l'orgueil de dire « Laisse-moi faire, je prépare mon biberon. Je sais mieux que toi. » Non. Et l'idée qu'un enfant est complètement dépendant, il n'y a pas d'orgueil. Très vite, il y aura un peu d'orgueil où l'enfant pensera qu'il peut faire tout seul. Mais il sera très vite, il pourra se repentir et demander de l'aide de ses parents. Mais il y a cette dépendance complète sur le père, sur la mère. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, il ne faut pas croire que nous sommes appelés à être puéril, c'est le mot qui veut dire être enfantin dans un mauvais sens, sans maturité, sans développement. Et Paul, dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit « Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je faisais des bêtises, je ne comprenais pas les choses. » Mais c'est cette qualité d'humilité, cette qualité de recevoir, de savoir qu'on dépend de quelqu'un d'autre complètement pour tout. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons, réaliser qu'en fait, si ce n'est pas lui qui faisait briller le soleil, on n'aurait pas de nourriture. Si ce n'est pas lui qui nous encourageait, si ce n'est pas lui qui faisait marcher notre corps, notre système, on ne serait pas là. C'est tellement important d'avoir cette réalisation que sans Dieu, je ne peux pas vivre. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut le recevoir par la foi. C'est intéressant, lorsque mes garçons étaient petits, quoi, jamais ils se sont dit « Papa, je me demande comment tu... » Je me fais du souci pour la note d'électricité. Ou je me demande si on aura encore de la nourriture, si on aura assez de sous pour avoir de la nourriture dans 2 semaines. Non, ils font instinctivement confiance à leurs parents. Et là aussi, Dieu veut que nous lui fassions confiance. Il n'y a pas place pour l'orgueil. Il ne s'agit pas encore une fois de faire n'importe quoi, d'être. Et dans plusieurs passages, l'enfant n'est pas. La Bible ne parle pas d'un enfant, d'une attitude d'enfant, toujours dans un bon sens, mais c'est dans cette façon de recevoir le royaume de Dieu, par la foi et en totale confiance que Dieu veut voir dans nos vies. Et encore une fois, c'est. Cette idée de dépendance d'un enfant vis-à-vis de quelqu'un de mature, c'est. Je suis surpris qu'on n'en parle pas davantage quand on fait de l'évangélisation ou de l'apologie, ou le sens où on explique pourquoi on peut être sûr que Dieu existe. On peut démonter. On peut arracher devant n'importe quel prix Nobel, n'importe quelle sommité scientifique, on peut dire que l'idée de l'évolution, que l'homme est apparu sur la Terre comme un petit tas de cellules par accident, et qu'ensuite il s'est formé, et puis qu'à cause de, à coup de fausses manœuvres, de fœtus qui ont pas évolué, qui sont morts, les autres ont évolué différemment. Mais penser que l'homme est venu sans qu'il y ait un parent, c'est absolument stupide. On est d'accord ? De croire que. Parce qu'en plus, il y avait des animaux. Ils seraient régalés avec des petits fœtus bien frais. Mais tout ça pour dire que Dieu veut que nous soyons conscients de notre dépendance envers lui. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour sa richesse, merci pour ces paraboles qui nous font mieux comprendre les vérités spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à réaliser notre dépendance envers toi, Seigneur. Aide-nous à être humbles. Ta parole nous dit que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, que ce soit nos capacités, que ce soit notre santé ou le manque de santé, tout ce que nous avons, Seigneur, ça nous a été donné. On n'a aucun pouvoir pour créer la vie, aucun pouvoir pour créer les capacités physiques, psychologiques, mentales, intellectuelles. Tout vient de toi, Seigneur. Apprends-nous à le reconnaître. Et à ne jamais chercher à nous vanter, à penser à nous et à vouloir écraser les autres, Seigneur. Seigneur, c'est un combat parce que notre vieille nature de pécheur veut toujours s'accaparer un peu de gloire. Et Seigneur, je te demande de nous aider à réaliser quand nos cœurs sont remplis d'orgueil. Merci parce que tu dis que l'orgueil précède la chute. Seigneur, et tant souvent lorsque on monte de l'orgueil, c'est pas longtemps après que tu nous rappelles à l'ordre. Seigneur, aide-nous à venir à toi avec la dépendance et aussi le désir de grandir qu'ont les enfants, Seigneur. C'est une autre qualité. Ils veulent pas rester petits. Aide-nous à grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole, dans le service, dans l'humilité. Nous prions ces choses, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ qui nous instruit. Amen.